Dernière intervention de la journée, donc croissance et effet rebond, mieux vaut débondir que rebondir. C'est tout un programme ça, c'est François Schneider.
Alors bonjour, je m'appelle François Schneider. Alors j'ai travaillé dans la recherche, dans l'écologie, pour essayer de développer des systèmes préventifs des problèmes. Et j'ai aussi milité dans un réseau qui s'appelle le Réseau Mondial Sans Voiture. Je vous présentais donc croissance et effet rebond. Alors on a parlé beaucoup de croissance et bon, je vais un peu répéter certaines choses, mais bon, mon plan en fait se décompose simplement en trois parties. Premièrement, je parlais de la croissance physique matérielle qui est en fait l'augmentation des biens. Des biens, en fait, c'est pas forcément le mieux-être, c'est en tout cas le mieux avoir. Deuxième partie, je parlerai de la croissance économique, bon, qui est liée à l'augmentation des biens et des services, hein, du PIB. Et on voit que c'est lié à, je vais vous expliquer que c'est lié à développement d'innovation pour accroître la consommation, hein, ce qui correspond en fait à l'effet rebond. Hein. Et en fait, cet effet rebond fait que la croissance économique et la croissance matérielle sont souvent liées. Puis je vous parlerai de la décroissance soutenable, bon, bah, qui pour moi est une décroissance aussi bien matérielle que économique. Par contre, c'est une augmentation du temps pour soi et pour les autres, de l'équité, de la santé. C'est pas l'augmentation des arrachages de dents, par exemple. Bon, et par contre, c'est ne plus être dépendant de l'argent, ne plus être dépendant d'autres choses comme les espaces des mètres carrés habitables, la vitesse, toutes sortes de biens de consommation comme ça qui ont tendance à augmenter. Bon, alors, je commence avec la croissance physique matérielle. Bon, bah, c'est plus de biens, plus de, en général, plus de maisons, plus d'usines, plus de mines. Et tout ça, si on remonte le cycle de vie des produits, hein, jusqu'à l'extraction des matières premières, ça veut dire plus de pétrole, plus de charbon, plus d'électricité, plus de matières renouvelables aussi comme le bois, plus d'espaces urbanisés. Je parle de croissance physique parce que ça inclut des choses qui sont... Ça inclut la matière, mais ça inclut aussi l'énergie, on en a parlé. Ça inclut aussi l'espace. Et bon, en tout cas, au total, c'est l'extraction en croissance de ressources naturelles. Donc, qu'est-ce qui se passe avec, par exemple, dans le domaine énergétique? Bon, bah, ça augmente. On l'a vu auparavant. On voit que là, c'est ce qui est prévu pour le monde, là, par l'International Energy Agency. On voit que les énergies renouvelables vont augmenter, mais ça reste une part très très faible, hein, par rapport à ce qui est prévu. Je pourrais montrer une courbe similaire pour les matériaux, hein, ou pour ça augmente. Bon, il y a certains matériaux comme l'acier qui par exemple se stabilise, mais il y en a d'autres qui augmentent énormément comme l'aluminium. Hein, en Europe, ça augmente de 100% depuis 70. Quoi. Bon, bah, l'espace urbanisé a doublé, hein, en Europe, par exemple, depuis les années 70. Et quel est le problème avec cette augmentation? C'est en fait une loi qui a été développée par Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que tout ce qu'on extrait, toutes les matières, les ressources naturelles qu'on extrait, vont se transformer après utilisation en déchets et pollution. En fait... Il n'y a pas de croissance. Hein. Il y a la quantité reste la même, sauf qu'il y en a des choses de bonne qualité, on les transforme en des choses de mauvaise qualité, qui même nous posent des problèmes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir de l'effet de serre, on va avoir la pollution atmosphérique, on va avoir des problèmes pour les générations futures, on va avoir des problèmes pour les gens ailleurs. Et on va aussi avoir, mais c'est un problème qui, à mon avis, a été surestimé, c'est le problème de l'épuisement. L'épuisement, en fait, c'est une limite qui serait salutaire, des fois. C'est une erreur du Club de Rome, à mon avis. Alors, verrez la suite. Donc, comme Georgescu nous dit que la véritable défense de l'environnement doit être centrée sur la décroissance de l'extraction des ressources naturelles. Pour les problèmes des générations futures qui manqueront de ressources, mais surtout parce qu'on transforme les conditions de vie sur Terre, on transforme ce qui est propice à la vie, les conditions qui sont propices à la vie, et ça c'est très grave. Bon alors, à quel niveau faut-il décroître, avoir une décroissance matérielle? Alors il faut bien sûr combiner quelque part un certain bien-être, on extrait parce qu'on a certaines utilisations, et d'un autre côté, ça crée des problèmes. Donc, quel pourrait être un niveau réaliste? Bon, il y a pas mal d'experts qui ont développé l'idée qu'il fallait décroître d'un facteur 2, hein, on l'a entendu aussi avant, pour l'énergie. On pourrait dire que ça correspond, en fait, on vit deux fois au-dessus de nos moyens, quoi. Il nous faudrait deux planètes. Alors, le problème, c'est qu'il y a 20% de la population qui consomme 80% des ressources. Alors, qu'est-ce qui se passe si tout le monde a le même droit de consommer? Qu'est-ce qui se passe aussi si la population croit comme elle doit, il est prévu qu'elle croit, c'est-à-dire de 60% dans les pays non industrialisés? Bon, bah, ça voudrait dire qu'en 2050, on consommera pas seulement deux fois trop, mais 12 fois trop. Bon, on n'en reste pas là parce que on a prévu aussi une croissance matérielle. On a prévu une croissance Là, je prends par exemple l'exemple d'une croissance de 2%, hein, en prenant l'idée que la croissance économique et matérielle vont ensemble. Hein. Et ça voudrait dire qu'en 2050, ça sera plus 30 fois trop. Ça sera 30 fois trop. Donc, il y a d'autres gens qui disent que c'est pas 30 fois trop, c'est 50 fois trop. C'est énorme de toute façon. Et c'est reconnu au niveau institutionnel. Il y a toutes les discussions qui sont faites par le Wuppertal Institute sur la réduction d'un facteur 4 ou 10, qui est repris dans des programmes politiques en Autriche, en Allemagne. Bon, c'est repris aussi par l'Union européenne. Donc, l'idée de décroissance matérielle est quelque chose qui est complètement reconnu. Ça se passe pas encore, mais c'est quelque chose de reconnu. Par contre, ce qui est dit, c'est que d'accord pour la croissance, la décroissance matérielle, mais par contre, il faut qu'il y ait une croissance économique. Hein? Alors, je passe à la deuxième partie, la croissance économique. Et il y a une équation qui a été développée dans les années 70 qui s'appelle la relation I-PAT. Alors, I, c'est les impacts, et les impacts écologiques sont liés à trois facteurs. En premier lieu, la population, donc il faudrait agir sur la dénatalité. Bon, je laisserai cet aspect de côté. Bien sûr, l'abondance, par une frugalité, une sobriété, c'est-à-dire chauffer moins sa maison, faire moins de kilomètres en voiture. Ou bien une autre solution, c'est d'agir sur la technologie, hein, par une meilleure efficacité. Alors, bien sûr, les experts, les gens des institutions ont préféré la troisième solution. Pourquoi? Parce qu'elle est compatible avec cette croissance économique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une cure d'efficacité. Alors, il y a toutes sortes de produits, des voitures qui consomment de moins en moins par kilomètre parcouru. Il y a des maisons qui sont mieux isolées. Il y a toutes sortes de choses aussi qui sont plus rapides, plus économiques, sans danger, sans effort. Et le problème, c'est que... Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire, c'est un spot publicitaire. Non. Si vous pourriez acheter plus de toutes ces choses-là, ce serait vraiment bien. Alors, c'est ça l'idée, en fait, c'est que toutes ces choses-là, ça n'a pas été seulement de l'efficacité pour être plus écologique, c'était surtout de l'efficacité pour vendre plus, et dans l'idée que les gens consomment plus. Et pour l'idée même qui était à la base de ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que c'est pour qu'il y ait une croissance économique. Donc, ce qui s'est passé, et c'est totalement prévu, c'est qu'il y a de plus en plus de voyages en avion, il y a de plus en plus de voitures plus lourdes et plus puissantes, même si elles sont plus écologiques, plus propres. C'est quand même des Hummer, ou je sais pas. Il y a de plus en plus de chauffage dans des maisons de plus en plus grandes. Le mètre carré habitable a augmenté, hein, dans toutes les couches de population et à tous les âges. Bon, il y a de plus en plus d'importations, d'espaces qui sont urbanisés. En gros, il y a eu une croissance économique avec une augmentation de la consommation des produits et des services. Voilà. Et ça, ça inclut aussi les biens relationnels. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une augmentation. Les biens relationnels, pour moi, ont amené une augmentation de la capacité d'achat de certaines personnes pour des biens qui sont tout à fait matériels. Bon, en tout cas, le résultat est que les impacts augmentent. Augmentation du CO2. Augmentation de la population, la pollution de l'air en tout cas n'est pas résolue, notamment dans les villes. Bon, la diversité biologique, il y a aussi les aspects sociaux, hein, c'est-à-dire que les déséquilibres sociaux restent, bien entendu. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ça? En premier lieu, il y a l'effet rebond, hein, qui a créé un accroissement des consommations. Il y a un autre aspect, c'est que ce qu'on appelle efficace, même écologiquement, ne l'est pas au niveau global. C'est-à-dire que souvent, il y a eu une exportation des problèmes en dehors des frontières. C'est-à-dire qu'on a vu avant toutes les courbes là de découplage entre l'économie, hein, et les consommations, par exemple, d'énergie, par habitant et la croissance économique, en fait, ne prennent pas en compte les consommations qui sont faites en dehors du pays pour les consommations qu'on fait, par exemple, dans les pays industrialisés. Hein. Ça ne prend pas en compte aussi, par exemple, les problèmes qui sont rejetés sur les générations futures ou choses comme ça. Alors, l'effet rebond, j'y viens, calmons-nous. Alors, l'effet rebond, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Alors là, je vous ai expliqué l'effet rebond dû à l'efficacité économique. Alors, on a des voitures, par exemple, qui consomment moins. On a un gain d'efficacité, moins de frais d'essence, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? On a un gain, on a une économie d'argent qui va pouvoir être réinvestie, soit dans une utilisation plus poussée de la même voiture, soit dans d'autres consommations différentes. Alors, par exemple, ça s'est aussi passé avec les ordinateurs, dont on a un exemple ici. On a des ordinateurs qui avant étaient énormes, qui prenaient un appartement entier. C'est devenu des petits ordinateurs qui consomment beaucoup moins. Mais par contre, on a pu en acheter à tout le monde, à tous les membres de la famille. Il y a aussi un effet rebond qui se passe avec d'autres aspects, comme le temps. Hein. On a un transport plus rapide, donc on prend moins de temps par kilomètre parcouru. Et le temps gagné permet de voyager plus loin. Ou bien avec les aspects écologiques. C'est-à-dire qu'on a un produit écologique qui s'est développé, comme le papier recyclé, qui pollue moins par kilo de papier. Et donc, on s'est dit, donc on peut consommer plus de papier. Et ça a augmenté. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation, une certaine limite. On ne peut pas consommer plus parce que, par exemple, on n'a pas assez d'argent pour consommer plus. Ou on se dit, sinon on va polluer trop si on consomme plus. Puis il y a une innovation de produits ou de services qui fait que le produit coûte moins cher, finalement. Et donc, on a alors un espace pour pouvoir consommer plus. L'innovation de produits ou services permet d'accroître notre consommation. On va redépenser l'argent qu'on a économisé d'un côté. Alors, il y en a qui vont dire, la solution, alors, c'est la sobriété. Mais, bon, c'est pas le problème le plus grave. Mais il y a aussi, dans une certaine mesure, un effet rebond dû à la sobriété. C'est-à-dire qu'on chauffe moins notre maison, donc on économise, et donc on va pouvoir faire un voyage à Dakar. On va pouvoir s'acheter une moto. Ou bien on va pouvoir avoir un système de chauffage au fioul complètement dégueulasse. Bon. La solution que je propose, je crois que c'est le sujet. Décroissance soutenable. Donc, qui est donc la décroissance matérielle et économique. Il s'agit de réduire, ce qui réduit notre bien-être, en gros. Et je vais vous exposer des solutions. On n'a pas tant parlé des solutions, surtout collectives. C'est des propositions, c'est des pistes. Et voilà, il y a des solutions individuelles, des solutions collectives. Et la première chose importante, c'est qu'il faudrait que se développe l'information sur ces phénomènes de rebond, l'information sur ce qui est réellement écologique. Par exemple, des choses comme des voitures à hydrogène qui font qu'il nous faut des centrales thermiques pour produire l'électricité qui finalement nous permet de séparer l'hydrogène, de séparer l'eau. C'est pas écologique. Je vais parler, en fait, là, on a parlé à un certain moment de... Je ne suis pas du tout pour l'immobilisme. Je pense qu'il faut utiliser notre intelligence, toute l'intelligence qu'on a. Pour le moment, elle est toujours utilisée pour le plus, pour consommer plus. Et là, l'idée, c'est d'avoir une innovation frugale, c'est-à-dire d'utiliser toute notre énergie, toute notre intelligence pour le moins. Et ça peut se faire notamment au niveau du style de vie. Et après, aussi des produits et des services, bien sûr. Et il s'agit alors d'ajuster ses revenus. Quand on a quelque chose qui nous permette de dépenser moins, on peut moins travailler, avoir plus de temps pour soi. Et ajuster aussi son espace de vie, son temps, sa conscience écologique, le danger, plutôt que de toujours rester au même niveau de danger, réussir à ajuster. Pour se créer, pour rester avec une nouvelle limite. Alors, par exemple, l'effet des bons économiques serait on a un transport qui consomme moins, alors on a moins de frais, alors on a moins besoin de travailler. Au niveau écologique, on a du papier recyclé, donc qui consomme moins par kilo. Donc, on réduit sa consommation de papier. Donc, on va vraiment avoir un effet sur l'environnement. Bon, il y a aussi des solutions qui sont plus collectives. Et on a vu que l'extraction des ressources naturelles était vraiment à la base du problème de la croissance des problèmes écologiques. Et donc, ça peut être quelque chose d'intéressant d'agir à la source, là où se passe l'extraction, par... Alors, il y a des concepts qui ont été développés sur des certificats d'input matériel, par exemple, qui sont en fait des quotas d'extraction. On regarde où est-ce que les extractions se font, et puis on décide que l'année prochaine, chaque année, on diminuera de 5% ou de quelque chose qui doit décider démocratiquement, bien sûr. Comme c'est difficile à faire au niveau international, ça peut se faire aussi au niveau des importations, c'est-à-dire... Un moyen de pouvoir agir sur les exportations qui se font dans les autres pays, c'est d'avoir des quotas sur les importations. On peut créer aussi des zones protégées des extractions. Ça pourrait se faire, par exemple, en Alaska. C'est-à-dire que plus on laissera de pétrole dans le sous-sol, moins on créera d'effets de serre. Donc, pour ça, il faut créer des réserves, et des réserves qui incluent le sous-sol. Et il y a des outils qui ont une grosse responsabilité dans l'extraction de ressources, c'est tout ce qui est excavateur, bulldozer, tout ce qui sert à construire des routes, à extraire des minerais, les explosifs. Je fais un peu un parallèle avec le problème de désarmement. Pour agir contre la guerre, on peut essayer de faire des bans sur les armes. Et bien là, c'est la même chose. Essayer de diminuer à la base la quantité de bulldozers, la quantité d'explosifs. On sait que de toute façon, s'il y a une amélioration, s'il y a une décroissance, il faudra qu'il y ait une décroissance du nombre d'explosifs qui servent à extraire les ressources naturelles. Et ça, c'est quelque chose de très concret. Sinon, il y a aussi d'autres types d'innovation frugale au niveau des produits et services. Concevoir des limites techniques à la consommation, par exemple en ayant des limitations techniques de la vitesse sur les voitures, par exemple, pas sur les vélos, par exemple. Alors, limitation de la capacité des routes. Hein, on sait que ça a été fait, hein, il y a des capacités des routes qui ont été supprimées, et le trafic a disparu. Les gens ont trouvé d'autres solutions, ils sont allés à vélo ou à pied. Il y a Internet, par exemple. Internet amène beaucoup de rebonds. Alors on pourrait imaginer que Internet on favorise aussi les contacts à proximité avec Internet. Il y a plein d'autres idées qui sont certainement possibles. Alors, il faudrait aussi favoriser certains produits et activités qui amènent le débon, comme par exemple le vélo, le jardinage, la randonnée, tout ce qui prend du temps, qui permet d'apprécier les choses pendant longtemps. On sait par exemple que le partage des voitures amène une réduction de l'usage des voitures. Hein. C'est mieux de ne pas avoir de voiture du tout. Puis aussi limiter certains produits amenant le rebond, comme par exemple les voitures ou les camions. On sait que, quelle que soit la conscience écologique, la possession d'une voiture amène en fait une utilisation presque similaire. Hein. Il y a très peu de différence. Il y a une petite différence, mais très légère, entre les gens qui ont une conscience écologique ou pas et qui ont une voiture. Donc on voit qu'il faut peut-être limiter ce genre de produits, par exemple dans les villes. Et en même temps, ça fera des espaces de liberté pour les gens. Voilà. Alors, aussi, en général, c'est un sujet qui est difficile peut-être, mais il faut limiter la capacité d'achat. En premier lieu, il faut une redistribution du travail, du temps libre et des revenus. Et puis, avoir des taxes écologiques sur les produits qui polluent le plus, qui sont identifiés comme tels, qui sont de moins bonne qualité. Et pour en général, favoriser ceux qui sont durables par rapport à ceux qui ne le sont point, et en même temps limiter la capacité d'achat. Puis baisser le temps de travail rémunéré, pour laisser du temps, pour que les gens se réapproprient leur temps hein, aussi, et que la capacité d'achat diminue. Bon, alors je vais finir avec le niveau local. Hein, le niveau local est très important parce que c'est là qu'on voit ce qui se passe déjà. C'est là que les distances sont petites. Je crois c'est aussi là qu'on voit très bien qu'il y a un niveau local, une fois qu'on a atteint un certain niveau de bien-être, consommer plus, on voit très bien que ça va nous apporter plus de problèmes. Par contre, une fois qu'on rentre dans un système économique plus large, on a du mal à l'imaginer. Et là, c'est très important qu'il y ait un travail qui se fasse à imaginer, peut-être qu'il y a un groupe de travail là-dessus, je ne sais pas, pour inventer un nouveau système économique et social basé sur la décroissance économique. Je croyais que c'est très important. Et je vais finir avec ça. Merci beaucoup.